fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.
Bonjour à tous, bonjour Vincent Rousseau, bonjour Françoise Thirion.
Bonjour Michel Valmer, bonjour Vincent Rousseau.
Bonjour, heureux de vous retrouver.
Et bonjour à vous, chers auditeurs de JetFM qui êtes à l'écoute de notre émission de Science 89, Fantômes et Merveilles, émission une fois de plus sous-titrée, Vertige et Poésie songe, ou plus exactement, Portrait, Souvenir de Michel Ragon. Car, rappelons-le encore une fois, 2024 sera l'année du 100e anniversaire de la naissance de Michel Ragon et qu'à cette occasion, nous continuons d'échanger avec Vincent Rousseau afin d'évoquer cette personnalité assez éclectique et formidable de Michel Ragon.
Qui fut donc un des plus grands critiques de la peinture et de l'urbanisme au XXe siècle. On en a parlé lors de notre dernière émission et on va y revenir. Mais pas seulement parce que je voudrais quand même rappeler qu'il était romancier, qu'il était amateur de musique. On en a parlé dans la dernière émission. Personnalité foisonnante donc, anarchiste, bouquiniste, saute-ruisseau. Qu'est-ce que c'est qu'un saute-ruisseau ? C'était un coursier. Et là, c'était aussi tout le rapport avec le langage de la Vendée, où on appelait les coursiers les saute-ruisseaux.
Oui, ça a été son premier métier à Nantes. Donc il le raconte d'ailleurs dans le drôle de métier.
Oui, c'est un bouquin où il nous raconte tout ce qu'il a fait.
Mais il faut essayer d'imaginer ce que c'est que l'arrivée d'un enfant de la Vendée à Nantes à 14 ans, sans travail. Il est employé pour aller donner du courrier dans les entreprises ou chez les commerces. Il est plus ou moins, plutôt moins mal reçu. Et il garde d'assez mauvais souvenirs de tout ça. Il dit que c'est là qu'au fond, il a pris conscience qu'il y avait quand même des classes sociales très différentes. Et là, il a gardé ce souvenir-là toute sa vie et il a essayé de défendre les petits toute sa vie aussi. C'est pour ça qu'il s'est trouvé en terrain d'entente pour partager sa colère sociale et sa soif de justice auprès du milieu anarchiste et libertaire lorsqu'il est arrivé à Paris, où il a été accueilli très, très chaleureusement. Il est resté d'ailleurs très lié avec ce milieu-là.
Oui, alors justement, c'est important de le dire ça, parce que dans ses livres sur l'architecture, il pensait surtout à l'avenir et il pensait au bien-être des gens qui allaient vivre dans les villes. Par exemple, là, je vois dans le livre qu'on avait cité la fois dernière, Paris, hier, aujourd'hui, demain, il rappelle que Paris manque de place pour ses ordures. Les lieux de décharge sont devenus de plus en plus rares dans la région parisienne. Aussi, l'usine d'incinération d'ici, les Moulineaux, vétustes et mal équipés, doit faire place à un établissement moderne capable d'éviter les pollutions atmosphériques. Et il faut traiter en 1975 450 000 tonnes annuelles de déchets représentant une partie des ordures de la région parisienne. Non, mais c'est absolument énorme. Et il se posait ce type de problème.
Oui, il se posait ces questions parce qu'il dit une certaine façon de vivre et de voir l'art à notre époque. Depuis 1925, où est la poésie dans l'architecture, l'acte d'accusation et les grandes enquêtes? Où vivrons-nous demain? L'action militante et le JAP. GIAP. Oui. Parlez-nous de cela.
On repart sur le GIAP.
Ah oui, mais c'était un moment très très important. Malheureusement, je ne suis pas un spécialiste de cette question d'urbanisme et de l'architecture. Il faudrait faire appel à des personnes qui connaissent mieux le sujet. Mais ce qui est très important, c'est que c'est vrai que ça l'a beaucoup préoccupé. Il a réuni autour de lui des penseurs, des artistes, des sociologues, des architectes, pour faire un groupe et essayer d'inventer, de réfléchir à ce que pourrait être la vie dans les cités dans le futur. On avait la perspective à ce moment-là de l'an 2000, c'était quelque chose d'extraordinaire. Il faudrait maintenant regarder ce qui a été proposé et demander à des historiens de l'histoire, voir si les solutions qu'avançait le GIAP aurait pu être fiable aujourd'hui.
C'est très formidable.
Parce qu'on y parle beaucoup de circulation, on y parle beaucoup de communication, on y parle beaucoup de routes, on y parle beaucoup de... Bon, est-ce que les moyens dont on dispose et les problèmes d'énergie que l'on subit aujourd'hui auraient permis de telles réalisations? Ça, c'est une vraie question. Je ne sais pas si l'utopie du GIAP aurait pu être réalisée ou réalisable. Ça, c'est une question que je suis pas capable à laquelle je ne suis pas capable de répondre moi-même.
Mais sur l'esprit même de ce que Ragon avait à nous proposer, je voudrais quand même que... Ça, c'est une lettre que Pierre Restalli vous a envoyée à vous. Vincent,
oui, quand on a préparé l'exposition de 1984.
Voilà. Oui, juste en lisant ce petit passage, ce texte de Restalli, ça c'est tiré d'une lettre donc qu'il vous a envoyée et qui concerne Michel Ragon.
Oui.
Il parle de Michel Ragon et il dit « Si Michel Ragon est devenu un historien de l'architecture, ce qui a changé radicalement encore, c'est sa dimension d'écrivain et sa vision de romancier. L'autodidacte militant, monté à Paris, et qui cherchait à projeter son identité internationaliste, prolétaire, dans les problématiques d'avant-garde, à retrouver les racines profondes de son vrai terroir. Ce qui n'a pas changé chez Michel Ragon, c'est la foi dans l'homme, incarnée dans les faits, une constante humaniste. Oui, c'est ça, sur laquelle se fonde mon estime et mon amitié. »
Belle analyse, non ? Hein ? Vincent Rousseau, Restalli, formidable. Et belle lettre qu'il vous a envoyée.
Restalli a connu Michel Ragon dans les années 50 lorsqu'il a participé à une revue qui s'appelait la revue Simès, qui défendait la peinture abstraite.
Nous allons parler de tout cela, bien entendu, Vincent Rousseau, mais on fait une petite pause musicale.
Avec Merci. Plaisir.
Sonate pour violon solo de Giletti. Musicien que Michel Ragon affectionnait particulièrement. Thank you.
Alors bien sûr, il y a cette propension à réinventer l'architecture dont on parlait. Et puis il y avait toute cette conception de la, toute cette vision qu'il avait sur la peinture abstraite. Mais déjà la peinture abstraite c'est très compliqué ça aussi, puisqu'il y a la, il y a l'abstraction lyrique, il n'y a pas forcément que l'abstraction lyrique.
Oui, alors c'est vrai quand on dit qu'il est critique d'art, il est surtout critique d'art et défenseur d'une catégorie dans la peinture abstraite qui s'appellerait plutôt l'abstraction lyrique. Alors oui, l'abstraction lyrique par rapport à l'abstraction géométrique. L'abstraction lyrique, c'est plutôt l'abstraction gestuelle, où il y a la trace du pinceau, il y a les éclaboussures, il y a une effusion, il y a une certaine, un certain romantisme dans la manière de s'exprimer, un certain expressionnisme. En Amérique, on appelle ça l'expressionnisme abstrait. Par rapport à une autre forme de peinture qui est abstraite, qui est très rationnelle, très tiré à la ligne. Ça se représentait en gros par Mondrian. Mais l'abstraction lyrique, c'est autre chose, c'est que les carcans sautent. Et au fond, c'est plutôt l'intériorité qui s'exprime, la personnalité de l'artiste. Donc l'artiste va chercher son modèle à l'intérieur de lui-même. C'est plutôt ça, à la place d'être, de représenter, d'être figuratif, il traduit son état d'être, son état d'âme, son intérieur.
Non, mais ce qui est beau, c'est le geste aussi. Parce que si on, d'une manière presque spontanée, je vais dire, on se lance dans la peinture non figurative.
Oui, mais absolument. Mais la peinture gestuelle n'est pas la peinture du n'importe quoi, parce que n'importe quel geste ne devient pas une belle peinture. Pour avoir la beauté du geste, les calligraphes japonais ou chinois savent que c'est toute une existence qu'il faut y mettre. Donc les peintres qui utilisent le geste comme moyen d'expression, ils le contrôlent. Ce geste n'est pas issu du hasard. Lorsque Soulages travaille son geste, c'est quand même pas n'importe quoi. Au contraire, c'est un geste qui peut être rapide, mais il est toujours quand même contrôlé. Et c'est la rapidité du contrôle qui fait que les artistes sont des grands artistes et ils font un geste après un autre, mais ce geste, ils construisent leur tableau, leur œuvre, dans une grande liberté, dans une grande effusion, mais il y a toujours quand même construction.
Alors, quand je parlais du geste, c'est parce que j'en ai à la main, et il y a une chose qui m'a toujours passionné, c'est qu'en grec, comme en russe, le terme qui dit « dessiner » et « écrire », c'est le même terme. Et il y a donc cette vocation de tout le temps aller vers un récit. Et ce que je vois chez Michel Ragon, c'est cette envie de, et là je reviens à ce que vous m'aviez dit une fois, c'est à ce terme, c'est que Ragon voulait être avant tout porter un témoignage. Et je pense que dans l'art abstrait, il y a cette idée de témoignage.
Oui, il y a le témoignage sur la beauté du geste. Alors, Michel Ragon, au début, il était fasciné par la littérature prolétarienne. On n'en a pas beaucoup parlé, mais là, il faut le savoir que c'est sa première passion. C'est la littérature des gens qui sont pas des spécialistes.
On voit ça dans la prochaine émission.
Absolument.
D'accord. Notre émission, malheureusement, se termine. Au revoir, chers auditeurs de Jet FM. Merci, Françoise.
Merci.
Merci.
À la semaine prochaine, n'est-ce pas, Michel ?
Absolument.
Fantômes et merveilles. Une émission de la compagnie théâtrale Science 89. Avec Françoise Thirion et Michel Valmet.